Bonjour, je suis Bob.
Et bonjour, je suis Ellie.
Bienvenue dans l'appel de Cthulhu.
Bienvenue dans l'appel de Cthulhu, votre podcast club de littérature où chaque mois nous nous téléphonons pour nous demander Cthulhu et où nous prenons le temps de décrypter un classique de la littérature que nous n'avions pas encore eu la chance de lire. Je suis toujours Ali et Bob qui se moque de moi parce que j'ai savonné mon intro tout à l'heure et que j'ai dû la refaire est encore une fois avec moi aujourd'hui. Bonjour Bob, comment ça va ?
Bonjour, ça va. Un peu déçu par mon mois de lecture, mais sinon ça va.
Écoute, moi c'est un peu so-so, hein, on va en parler, c'est du très bon et quelque chose qui nous a laissé dubitatif, on va en reparler peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, bah écoute, je suis content. Émission de juin, déjà, tu te rends compte.
Oh là là, joie.
Huit mois.
Huit mois, c'est beau. Et puis, oh là là, c'est joli quand même. Hein. On fera nos un an bientôt, mais ouais. Et on s'arrêtera pas pour juillet-août, hein, parce qu'on a décidé de faire des enregistrements de secours pour au cas où il y aurait des manquements.
C'est ça, donc probablement, tu sais, on dit ça, on a notre réunion ce soir, ou peut-être ils vont nous dire on est virés,
c'est
nul,
ce soir.
Notre émission, tu sais, il y a Inks, il va arriver avec un bâton, il va nous taper sur les doigts.
Non,
si, en tout cas, nous, on a envie de faire une saison 2, et on vous tient au courant rapidement, mais normalement, ça devrait pouvoir se faire. Hein,
puisque, oui, j'espère bien.
Puis effectivement, juillet, peut-être des émissions hors série, peut-être un très gros morceau pour la rentrée, tu vois. Ça. 1200 pages de littérature médiévale japonaise, tu vois.
Wouhou ! On est des dingos !
On est des dingos. Voilà, voilà. Bon, est-ce qu'on passerait pas au sujet de notre émission, hein, qui est donc, comme d'habitude, le fait qu'on va vous parler un petit peu de ce qu'on a lu ce mois-ci, et on attaquera un classique de la littérature avec de la littérature italienne, j'allais dire pour la première fois, mais non, pas du tout.
Non, c'est vrai que c'est pas la première fois, dis donc. On avait eu le nom de la rose, là, et là, maintenant, c'est Cosmic Comics d'Italo Calvino.
Voilà, un changement de registre à peu près complet, hein, puisqu'on va passer sur de la science-fiction psychédélique et cosmogonique. Hein.
Ah oui, complètement. Et puis bien cosmogonique. Hein,
très cosmo et un peu gonique sur les côtés. Hein, donc,
et très LSD.
C'était les années 60.
Une drôle d'époque, pas envie de la vivre.
écoute, ah ouais, quand même, ça devait être intéressant.
Il y avait des points positifs, bien sûr.
En tout cas, voilà, on vous parlera un petit peu de ça tout à l'heure. Mais en attendant, on va attaquer notre première rubrique traditionnelle, où nous allons nous raconter nos différentes lectures. Mais alors Bob, ce mois-ci, dis-moi donc, qu'as-tu lu ?
Eh bien, j'ai essayé de lire Terre-Mère, l'intégrale d'Ursula Le Guin.
J'aime bien, j'ai essayé dès le début.
Oui, ça montre tout de suite la certaine limite. Alors, il fait quand même, l'intégrale, elle est énorme. Hein. Elle fait,
attends, énorme.
Ouais, elle fait, je vais vous dire ça. Alors, c'est en plus sur du papier un peu glacé comme ça, tout mignon, tout bien. 1793 pages. Voilà, alors
oui,
autant vous
même.
Dire que je n'ai pas fini. J'en suis à la 313e page.
C'est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal parce que du coup, je peux en parler. Et déjà Ursula Le Guin. Alors Ursula Le Guin, c'est un monument de la SF et de la fantasy, hein. Je sais pas si nos auditeurs et auditrices sont au courant, mais maintenant vous le savez. Elle a écrit tellement de trucs et notamment Terre-Mère qui est de la fantasy. Ah, c'est ça, Sword Sorcery, machin, là, je sais plus trop comment ça s'appelle.
Sword and Sorcery, enfin, c'est de la fantaisie épique des années 60. Et un très mauvais film du studio Ghibli également. Le pauvre Goro Miyazaki, on te regarde où que tu sois.
Ah, d'accord, oui, je savais pas pour. Enfin, bref, voilà. Elle a commencé à l'écrire en 1964. Comme Calvino, hein, il me semble qu'il y a...
Comme Calvino, ouais, ouais. C'est 64 également.
Voilà, là, j'ai fait années 64, et a priori, années 64, ça me réussit pas. En termes de littérature, donc c'était à la suite d'une commande après qu'un éditeur ait lu ses nouvelles de fantasy. Au début, elle a dit qu'elle avait peur de pas savoir comment écrire des histoires pour adolescents, parce qu'au départ, c'était pas du tout son délire. Alors après, peut-être que je l'ai senti, je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas. Voilà, j'ai lu d'autres bouquins d'elle et ça, c'est voilà, ça m'a pas. Donc ça se passe. C'est un recueil de romans. De petits romans et de nouvelles sur un monde médiéval fantastique fragmenté en îles où il y a de la magie, il y a des dragons, il y a des morts, il y a des personnages mixtes, donc hommes, femmes, blancs, noirs et tutti quanti. On suit l'histoire de Ged, ou Jed, je sais pas trop, mais Ged, je trouve que c'est plus joli. De la découverte de ses dons à ce qu'il devient. Alors, la question que pose l'autrice, c'est que pour une fois, un personnage principal de fantasy est noir. Et ouais.
Oui. Et d'ailleurs, je crois que dans mon souvenir, tu ne le sais pas avant genre la page 250 et c'était volontaire, quoi.
Oui, tout à fait. Mmh. C'était volontaire. C'est parce que déjà, parce que ben, à l'époque, c'était un truc de ouf de faire ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'était tellement ouf que sur toutes les couvertures de l'époque jusqu'à encore très récemment, on montrait le personnage blanc.
Ouais.
Alors que c'est bien écrit, hein, à un moment donné, que c'est noir, oui, oui. Et que, enfin, voilà, qu'ils sont noirs et que la population est noire. Et justement, il y a tout un passage d'une attaque d'un peuple blanc, genre on sent que c'est un peu viking, qui vient attaquer les gens, voilà, donc c'est pourtant très clair, mais non, on ne met pas de personnages noirs sur les couvertures jusqu'à encore très récemment. Et ça a profondément énervé le gain d'ailleurs. Hein. Mm. Mais bon, personnellement, je trouve que ça change rien du tout à l'histoire qu'il soit noir ou blanc de peau, hein, sincèrement.
C'était d'ailleurs son objectif, hein, elle en a souvent parlé, oui. En disant que justement, elle voulait qu'on puisse s'identifier aux personnages avant même qu'ils aient toute forme de description physique, oui. Pour justement casser ce cliché de le héros qui a toujours la même tête et tout ça. Donc c'était vraiment une démarche de sa part, d'où je comprends son énervement, qu'ils aient même pas respecté cet aspect-là sur les couvertures.
Ouais.
Après, il y a eu souvent des couvertures de Terre-Mère où il n'y avait pas de personnage du tout représenté, dans des éditions internationales notamment.
Ouais. Ouais. Mais justement, dans l'intégrale, il y a toute une introduction, une préface où elle parle de tout ça et en long, en large et en travers. Et c'est très intéressant à lire. Mais pour l'histoire en elle-même, c'est un jeune garçon un peu arrogant parce qu'il est super balèze. Hein, il a un don assez inouï pour tout ce qui est la magie. Et il fait une énorme bêtise à cause du défi d'un autre jeune très arrogant à son école. Et il fait un truc pas bien, qui va lui sceller ce destin de sa vie, en fait. Graou, et voilà, c'est comme ça qu'il se retrouve à parcourir le monde pour fuir ou combattre, ça dépend son énorme bêtise, voilà. Donc, j'ai pas du tout fini de le lire, hein, parce que c'est long. Oui, et puis parce que ben j'aime pas trop.
C'est un peu vieilli, c'est un peu dur de se lancer là-dedans aujourd'hui. Hein.
Ouais, franchement, ouais. On sent que c'est bien écrit, tu vois. Il y a un style conté, il y a juste ce qu'il faut de description, de psychologie, de magie. Il y a de tout. Elle a vraiment bien. Tu sens qu'il y a une grosse maîtrise. Il y a un bon équilibre, mais je sais pas, ça s'apprend pas, quoi. Alors parce que j'ai lu d'autres bouquins d'elle, hein, quand même. Hein. J'ai lu notamment La Vallée de l'Éternel Retour, qui a été une grosse claque.
Ah oui.
Ouais, une expérience
c'était
de lecture.
Chouette, ça.
Ah ouais, franchement, c'est un truc. On découvre le concept d'archéologie du futur. C'est bien kiffant. C'est un peuple qui est en Californie. C'est un peuple du futur après qu'il y ait eu le fameux Big One aux USA. Donc la Californie a été séparée des USA. Et donc, du coup, tu suis, c'est genre peut-être 500 ans après qu'il y a eu
ouais, c'est vraiment du post-futur, en fait. Et c'est hyper intéressant.
Hein. Ouais, voilà. Franchement, là, c'était... Alors, ça mêlait en plus des récits, mais aussi de l'ethnologie fictive et de l'archéologie. Il y a des... Elle fait des petits croquis de trucs, comme si tu lisais un truc d'histoire, en fait, tu vois, un bouquin d'histoire, de chercheur d'histoire. Donc, c'était vraiment ça, c'était classe. Et là, Terre-Mère, ben, du coup, ça paraît fade, en fait. Ça semble assez creux en comparaison. Donc, du coup, je pense que je vais le mettre de côté. Après, peut-être aussi que je suis plus le public.
C'est ça, c'est de la littérature effectivement un peu adolescente, mais aussi à une époque de la fantasy où la fantasy cherchait un peu à se renouveler. Mmh. Donc il y avait aussi tout un travail sur les formes, tout un travail aussi sur essayer de creuser dans de nouvelles directions. Moi j'avais essayé pas mal de lire des romans de Samuel Delany qui est un peu à la même époque, ouais. Qui un petit peu dans le même cercle aussi travaillait beaucoup sur la linguistique, sur les mythologies mondiales. Et c'est vrai que ça partait un petit peu dans tous les sens, mais qu'aujourd'hui quand tu reviens à ces textes-là, des fois c'est un petit peu difficile de se remettre dans cette ambiance de l'époque.
Oui, voilà, c'est ça. C'est bon, c'est dommage. Donc, je sais pas encore. Soit je vais le laisser de côté pour le reprendre plus tard, soit je vais vraiment abandonner et le laisser à mes futurs enfants. Je ne sais pas.
Eh bien, écoute, ou le laisser à l'histoire de l'histoire
la
générale de la fantasy,
oui.
Parce que, enfin, oui. Voilà, Ursula Le Guin, c'est quand même effectivement des tonnes de prix littéraires.
Oh là là,
c'est,
elle a remporté 7 fois le prix Hugo, 6 fois le prix Nebula, 22 fois le prix Locus. Elle a failli avoir, elle a été nommée plusieurs fois pour le prix Nobel de littérature et finalement elle a eu, entre guillemets, que le National Book Award en 2014 pour l'ensemble de sa carrière.
Donc, tu veux que je te donne une citation de Ursula Le Guin?
Vas-y.
Que j'aime énormément. C'est « Je doute que la science-fiction soit le meilleur terme possible pour désigner mon œuvre, mais c'est celui dont nous disposons. Pour ma part, je peux devenir susceptible et agressif si on me qualifie d'auteur de SF, chose que je ne suis pas, car je suis une romancière et une poétesse. Ne me mettez pas dans une case où je ne rentrerai pas, car j'en déborderai. »
Oh, c'est tellement vrai et tellement beau. Non, c'est vrai qu'elle dépasse tout ça. C'est chouette, son style est très chouette. Il y a aussi Le langage de la nuit où c'est une compilation de tous les discours et de tout ce qu'elle a pu écrire sur la littérature et sur sa propre carrière. Donc c'est intéressant, je l'ai pas encore tout lu, j'ai lu quelques petits passages à droite à gauche. Elle se place là, elle a écrit une part de l'histoire de la littérature populaire. Donc ça c'est voilà.
Et elle a fait rentrer aussi les sciences universitaires dans la littérature de l'imaginaire, beaucoup. Enfin, Tolkien aussi, hein, mais c'est-à-dire que c'était ça. Elle, Delany, Tolkien, même Robert Heinlein, tout ça, c'était des gens qui avaient quand même aussi une culture théorique
très
intéressante, voilà, ouais. Qu'ils ont importé aussi dans la littérature et dans la création d'univers.
Oui, c'est assez clair. Ça, c'est... Mais bon, pour le coup, voilà. Termer, c'est pas pour moi. Et toi, Sam, dis-moi, qu'as-tu lu ce mois-ci ?
Eh bien, écoute, moi, je me suis attaqué à un monument que je devais lire depuis longtemps, car la plupart des gens que je connais en parlent. C'est notamment suite à l'effet d'un gigantesque bouche à oreille sur ces derniers mois. C'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Donc, un livre dont tu as peut-être entendu parler.
Pas du tout.
Eh bien, écoute, je vais t'en parler.
Oui, s'il te plaît.
Puisque c'est sorti chez un éditeur qui est pas un énorme éditeur, c'est chez Zone, qui a eu un énorme succès d'édition, un petit peu surprise, à tel point qu'il est devenu numéro 1 des ventes d'essais en fin d'année dernière, en coiffant au poteau le, je sais plus quel livre de Zemmour ou de Laurent Deutsch, je sais pas, une ânerie d'extrême droite comme ça.
C'est clair, c'est bien, justement.
Voilà, non mais c'était très bien, et justement, moi c'est à cette occasion-là que j'en avais vraiment beaucoup entendu parler, parce que je voyais plein de gens se réjouir en fait que ce livre-là, qui était d'une autrice qui est pas une autrice de premier plan, qui a fait très peu de plateaux, qui a fait très peu de médias pour le vendre, en fait par le bouche à oreille arrive un petit peu à voler la vedette en fait aux charts, même si c'est évidemment pas le plus important.
Ouais, mais ça reste quand même super classe.
Voilà, et il faut savoir que c'est un livre dont que j'ai vu à Noël dernier, plein de gens, notamment plein de femmes s'offrir entre elles, tu vois. Enfin, et d'ailleurs, je l'avais acheté pour ma grand-mère qui est elle-même un petit peu une sorcière, hein, puisqu'elle fait des trucs de druide dans la forêt en Moselle
cool.
Et tout. Donc, ma grand-mère Arlette, que je salue, si elle écoute un jour cette émission.
Bisous,
mais du coup, elle a tout un truc, elle est assez mystique et vraiment dans le meilleur sens du terme. Et bon, bref, tout ça pour dire que c'est un livre que j'ai acheté deux fois, du coup. Parce que, donc j'ai acheté une fois, puis qu'après qu'on nous a offert, enfin, c'est qui circule beaucoup, voilà. Donc j'avais une curiosité par rapport à ça, et en plus j'avais une curiosité de lire un livre de Mona Chollet, qui est une autrice dont je connaissais un petit peu l'œuvre, puisque figure-toi que c'est une des grandes anciennes du podcast, puisque elle avait une émission sur Arte Radio en 2004,
Ouh.
Avant même que le mot podcast, tu vois, existe, qui s'appelait L'Esprit d'Escalier, où elle racontait un petit peu, elle analysait des faits de société, et effectivement c'est assez bien trouvé, puisque Mona Chollet c'est quelqu'un qui a beaucoup l'esprit d'escalier, c'est-à-dire qu'elle va vraiment dérouler des raisonnements, et c'est toujours très intéressant.
D'accord.
Et elle s'était fait remarquer aussi pour deux autres livres, un qui s'appelait, et je vais venir après, c'est important d'avoir un petit peu le background de Mona Chollet pour appréhender Sorcière. Elle avait écrit un livre qui s'appelait Beauté fatale en 2012, qui avait été très très remarqué, qui parlait un petit peu des dictats de la mode et de la cosmétique, notamment vis-à-vis des femmes, et du monde du mannequinat. Et elle avait écrit ensuite Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, où elle analysait un petit peu le rapport qu'on avait avec son propre domicile. Mmh. Puis de fil en aiguille, donc elle a écrit ce livre qui s'appelle Sorcière, et qui part d'un fait de société trop méconnu, ou sur lequel on a trop de clichés, qui est la chasse aux sorcières, tout simplement.
Ouais, on a beaucoup de clichés.
on a beaucoup de clichés, notamment sur la période à laquelle ça se passe, puisque ça se passe pas au Moyen-Âge, mais à la Renaissance, que, voilà, enfin, bon, bref, elle part vraiment de ce fait.
Un petit peu l'époque moderne, hein.
Et encore un petit peu, vous voyez, puisque les dernières sorcières ont été brûlées à la fin du XVIIIe siècle, hein,
oui,
donc
oui,
faut quand même imaginer que pendant qu'on faisait la Révolution française en France, il y avait encore quelques sorcières qui se faisaient brûler en Espagne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement éloigné du Moyen Âge.
Donc on peut dire que quelques femmes se faisaient brûler.
Oui, pardon, oui, excuse-moi. C'est entre guillemets, bien sûr, tout cela. Et donc ça a été un véritable massacre qui a non seulement décimé la place, qui a décimé des familles entières de femmes, voire des villages entiers. Il y a des villages entiers qui ont disparu en fait du fait de la chasse aux sorcières et de cette espèce de psychose collective à la Renaissance, alors que parallèlement c'était la naissance de l'humanisme, puis des Lumières, etc. Mais elle explique bien qu'en fait tout ce mouvement-là, ça a aussi été un mouvement de marginalisation de la femme. Plein de professions ont été interdites aux femmes à partir de la fin du Moyen Âge. Le fait qu'une femme vive seule, c'était devenu quelque chose de très négatif, alors au Moyen Âge, il y avait tout le mouvement des biguines, donc des communautés de femmes qui vivaient entre elles, etc., sans que ça perturbe grand monde. Donc, elle part de ce fait-là en l'analysant et en expliquant comment c'est arrivé en fait en Occident. Puis, à partir de là, elle va dérouler tout son livre en expliquant tous les impacts que ça a encore aujourd'hui sur la place de la femme et des rapports entre les hommes et les femmes dans la société. Oh, et bah, pourquoi voilà, n'est-ce
oui,
pas
y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire. C'est un livre qui est extrêmement dense, qui va s'axer après autour de quatre grandes thématiques. D'une part, ça va être, elle va parler un petit peu de la perception de l'indépendance des femmes dans notre société. Pourquoi c'est encore vécu comme quelque chose de menaçant, d'étrange, qu'une femme choisisse un petit peu d'être indépendante, de pas forcément se mettre en couple, de pas forcément se marier, ou simplement de vouloir vivre sa carrière, et comment c'est encore perçu négativement, alors que tout le discours de la société, c'est de dire non, mais c'est bien être une femme libérée, tatitata, alors qu'en fait, quand une femme le fait, effectivement, elle est vue comme bizarre, marginale, c'est la vieille folle avec les chats, etc. Enfin,
ouais. Tu vois. Ou la bonne connasse qui va écraser tout le monde, machin, qui
exactement.
Qu'il me faudrait, ça serait un bon coup de bite, blablabla, bla, bla, et tout ça, quoi.
Voilà, c'est ça. Un homme qui le ferait serait ambitieux, une femme qui le ferait serait arriviste. Ouais. Voilà, c'est... Elle va parler de ça. Après, elle va parler du refus de la maternité. Enfin, il y a toute une partie autour de ça, sur les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui sont encore aujourd'hui très stigmatisées
Et très incomprise. Ouh là là.
Et très incomprise, voilà. Avec toujours ces arguments très culpabilisants, pense à celles qui peuvent pas en avoir, etc. Avec tout le côté violence médicale qui se rajoute par-dessus. Tu vois. Enfin, c'est un truc très, très...
bullshit habituel.
Pression permanente, voilà. Et elle explique vraiment comment c'est ancré aussi dans la fiction, comment c'est ancré dans les séries télé, comment c'est ancré dans la littérature, des fois même la littérature scientifique, avec des pseudo-arguments qui viennent de choses absolument pas du tout rationnelles, voilà, qui viennent des fois de faits complètement inventés, voire du fait qu'on ait retiré des corpus universitaires, médicaux, etc., des auteurs femmes de l'Antiquité, du Moyen-Âge, etc. Donc c'est très documenté. Après, elle va parler un petit peu de la vieillesse et de l'image de la vieille peau, enfin de la vieille sorcière justement, et du fait qu'aujourd'hui, en gros, dès que tu as passé la trentaine, voire même des fois avant, la société va considérer les femmes comme étant de plus en plus périmées, alors qu'elle va considérer les hommes comme étant
mature.
Elle prend cet exemple en fait des salaires, des salaires moyens, c'est des choses qui ont été étudiées dans le milieu du cinéma, où en gros une femme va toucher son maximum de cachet à 25 ans, puis ça va ne faire que décliner, alors qu'un homme passé 40 ans voit son salaire s'envoler petit à petit quand il est une star.
Je suis pas
sûr
qu'il faut que je le lise ce bouquin, si rien que pour les informations.
Ça va t'énerver tout le temps.
Que je prenne des anxiolytiques après, quoi.
Ça va t'énerver tout le temps, mais en même temps, voilà. Voilà. Et puis après, il y a une dernière partie qui va plus parler du rapport à la rationalité et aux violences médicales et au fait que la femme soit un sujet de médecine et pas un objet de médecine, et que du coup, ça induit un irrespect total en fait du corps de la femme dans tout ce qui est médecine. Mais effectivement, c'est un livre qui est très énervant quand on le referme, parce que.
Mais rien que sur les tests des médicaments, rien que sur les tests du paracétamol, le paracétamol est testé sur des hommes blancs de 30 ans. À aucun moment on prend. Alors du coup, il y a énormément d'intoxication au paracétamol chez les femmes. Bah oui, parce qu'on leur dit prenez un gramme, vous faites plus de 50 kilos, bah prenez un gramme. Non, c'est pas comme ça que ça se danse, les gars, quoi. Et on est seulement en train de se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose à voir, qu'il y a peut-être différentes morphologies, et que c'est pas forcément non plus juste une question de genre, mais que ça serait peut-être bien un petit peu de se pencher quand même sur la question, quoi.
Elle parle notamment par rapport à ça du scandale du Levothyrox qu'il y a eu en 2017. Oui. Je ne sais pas si t'as entendu parler de ça. Voilà, donc c'est un laboratoire qui décide de changer la formule d'un médicament qui est massivement pris par les femmes parce que les maladies thyroïdiennes touchent un petit peu plus les femmes que les hommes et plein de patientes se sont immédiatement plaints de ce changement de formule, d'énormes effets secondaires, et la plupart ont été, beaucoup de femmes en fait n'ont pas été entendues parce que c'est des symptômes, en gros qu'on va renvoyer souvent dans le domaine de la douilletterie. Oh bah ça va, vous n'êtes pas si mal que ça, c'est bon,
aussi,
c'est des migraines.
Mais c'est dans votre tête, vous êtes en souffrance, c'est normal aussi, vous inquiétez pas, allez voir un bon psy.
Donc voilà, donc c'est un livre qui revient un
vous
petit
vous
peu sur tout ça
trop,
et
madame.
Qui le rattache. C'est ça. Ben non, justement. Et donc bon, ce livre, déploie tout un argumentaire qui est vraiment implacable parce que c'est extrêmement documenté. C'est très richement illustré par plein d'exemples à chaque fois pour bien montrer que c'est pas qu'une vue de l'esprit. On a vraiment petit à petit, au fur et à mesure que les siècles ont passé. Désappris en fait à écouter le corps féminin, désappris à donner une place à la femme dans la société, ce qui veut pas dire qu'au Moyen-Âge tout était idéal, hein, bien sûr, c'est pas du tout son propos, mais qu'il y a vraiment eu un mouvement de fond dont on paye encore les stigmates aujourd'hui. Et puis c'est brillamment écrit, c'est vraiment elle a un style qui mélange un petit peu expérience personnelle, prise d'exemples récents, références historiques, ça se lit vraiment presque comme un thriller, hein, sur comment on en est arrivé
cool.
là. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour que ça change, et quels réflexes on pourrait acquérir pour ne sortir un petit peu de ce modèle-là. Enfin, la dernière partie...
donne des solutions, c'est bien ça.
Oui, un petit peu, ou du moins elle donne des pistes ou des idées. La dernière partie du livre parle un petit peu, enfin s'appelle, je crois littéralement, mettre ce monde cul par-dessus tête, qui est
tout est cul par-dessus tête.
C'est ça.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
C'est ça. Ben c'est le. En fait, ça vient un petit peu de théoriciennes écoféministes des années 80 qui voulaient un petit peu dire que petit à petit, en fait, en poussant au maximum ce qu'on a appelé la rationalité au 19e siècle, mais qui n'était pas toujours de la rationalité, puisque des fois c'était aussi des faits inventés basés sur des stéréotypes, on avait un petit peu oublié la part de féminin ou d'altérité qu'il pouvait y avoir dans la science, quitte des fois à mettre complètement de côté des résultats d'expérience ou des faits de société parce qu'ils collaient pas avec le présupposé qu'on avait de la rationalité et qu'il faudrait en fait renverser un petit peu certaines choses pour aussi réapprendre à réfléchir et réapprendre à construire des raisonnements non biaisés par rapport à plein de faits scientifiques. Donc c'est un livre
qui... la globalité plutôt que juste une partie.
Ouais, c'est exactement ça. Et c'est un livre qui est vraiment passionnant, donc que je vous recommande pleinement. Ma seule, des fois, petite réserve que je pourrais avoir par rapport au livre, mais ça, c'est juste stylistique et c'est juste, encore une fois, pour le coup, ça, c'est complètement subjectif. C'est que des fois, elle fonctionne par accumulation d'exemples, ce qui est normal parce que ça sert totalement son raisonnement. Mais des fois, il peut y avoir un côté un peu assommant, mais pas dans le sens ennuyeux, dans le sens où tu peux te sentir, tu te dis, voilà, presque, oui, quand tu parlais d'anxiolytique tout à l'heure, c'est pas faux. Tu vois, il y a des moments où
ben
tu te
ouais,
dis.
Ça doit foutre la rage, quoi.
Un peu. Surtout quand tu prends, même quand c'est des choses que tu sais déjà, quand tu prends conscience, des fois, des âneries qui peuvent être débitées, même des fois encore récemment, par des grands penseurs ou des gens qui sont supposés être des références. Et quand tu vois cette accumulation, ça peut être dur à lire.
Je pense que dedans, si elle l'avait écrit seulement maintenant, tu vois, il y aurait le football féminin, faut arrêter, hein, moi je veux pas voir des femmes jouer au foot.
Oui, c'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Bah t'as qu'à pas les regarder, crève-toi les yeux, mon gars. Ça...
Grenade, reste chez toi et ta télé, on s'en fout, quoi.
C'est ça, ouais, exactement, on s'en fout. voilà, et le... L'autre, et ça c'est vraiment complètement anecdotique, mais l'autre petite réserve que j'avais, c'est que bon, ce livre est extrêmement documenté, ça pas lui enlever, mais que des fois il y a des sources qui sont un petit peu secondaires, ce qui fait que elle a l'honnêteté des fois de le dire, c'est des fois elle cite quelqu'un qui cite un article à la radio. Donc des fois remonter à la source de ce qu'elle dit est compliqué. Maintenant toutes les sources sont vraies et authentiques, donc c'est vraiment moi l'ancienne universitaire.
Oui. T'aurais dû juste citer le truc
exactement.
De base, quoi.
Mais bon, ça c'est juste si vous n'avez pas fait un master, vous en fichez, c'est pas grave. parce que toutes les sites qu'elles sources sont pertinentes et authentiques et voilà. Et en plus ça donne envie de lire plein de choses qu'elle va citer en référence. Et même si vous connaissez rien du tout au féminisme ou à toutes ces théories-là, c'est un excellent point de départ pour prendre conscience de plein de choses et vraiment, je vous le recommande. En plus, elle fait, et je voudrais, et après j'en aurais terminé, elle fait quelque chose que je trouve vraiment très bien, c'est-à-dire qu'elle se lance pas dans l'exercice extrêmement périlleux du relativisme culturel, c'est-à-dire c'était mieux dans le passé ou c'est mieux chez les voisins. Elle se concentre vraiment sur les sociétés occidentales contemporaines qu'elle connaît, qu'elle a étudiées, ce qui fait qu'elle elle savonne pas sur des choses qu'elle va avoir plus de mal, tu vois, à maîtriser.
Ouais, bah oui. Ouais. Bah,
toutes les choses après, dont elle parle, c'est vraiment ce qu'elle a étudié, quoi. Et c'est hyper intéressant.
Le passé, c'est le passé, et voilà. Et les voisins, ils font presque ce qu'ils veulent, mais nous, en attendant, ce qu'on veut, c'est, voilà, c'est être légal, comme un être humain normal, quoi. Je veux dire, c'est pas plus compliqué.
Tu vois, elle fait jamais ni ce truc de dire, tu vois, c'est pire ailleurs, ou tu vois, ou, si ça continue comme ça, ça va être l'Arabie Saoudite, tout ce qui serait très maladroit et très.
Que
elle
oui.
fait pas non plus ce truc de dire, ah, le passé mystique où la femme était une déesse mère, et tu vois, parce que ça n'existe pas non plus, et que, voilà, tu vois
non,
pas.
Ça a toujours été une sorte de guerre d'influence, au final, d'après ce que je peux comprendre jusqu'à présent, hein.
Voilà, c'est ça. Et en fait, le fait qu'elle soit vraiment concentrée sur comment on en est arrivé nous maintenant en tant que, je dirais, Européens de l'Ouest, et enfin, elle parle un peu de l'Amérique du Nord aussi, à ce niveau-là d'inéquité, alors que nous, on n'arrête pas de vanter l'égalité homme-femme. C'est hyper intéressant. Donc voilà, ça s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes, de Mona Chollet, que je vous recommande vraiment très très chaudement. C'est peut-être un des meilleures choses que j'ai lues depuis qu'on a lancé l'appel de Cthulhu.
Mais tu ne peux pas, tu le dis à chaque fois.
Que je dis quoi?
Que tu dis que c'est la meilleure lecture à chaque fois?
Eh ben c'est parce que je suis sur un truc ascensionnel, tu vois. C'est
bon, moi, non, je te parle de bouquins que j'ai pas aimé, quoi.
Ça m'arrive aussi, mais ouais, j'ai plutôt du bol depuis qu'on a lancé cette émission, donc tout va bien.
Ah non, voilà, je suis déçu par mon mois de lecture, je vois, bouh.
Écoute, heureusement que j'ai pas été déçu parce que j'ai lu que ça et le livre dont on va parler après. Donc
Bah moi aussi, c'est pour ça, ça me déprime.
Je n'ai plus jamais de
bouquin de 1964, c'est fini. Auditeur, auditrice, prenez bonne note.
Prenez bonne note, c'est fini 64 maintenant. Bon, tu sais quoi, on va lire une publicité pour Radio Kawa.
Oui.
Alors on va faire ça, on va lire la publicité pour tes vénères. Parce que tu vois, on parlait d'énervement.
Parce qu'on est vénère. Voilà,
parce qu'on est vénère. Mais non, tes vénères, c'est pas une émission qui parle d'énervement, même si des fois les chroniqueurs ils sont énervés par des choses, puisque c'est une émission qui parle de télévision et du monde des médias, que vous pouvez retrouver, je crois, tous les 15 jours sur Radio Kawa. Et ben ça c'est une bonne nouvelle. Et je vais vous lire leur publicité avec ma plus belle voix de lecteur de publicité. Quand la télévision déraille, quand la radio tressaille, quand la presse écrite est en pagaille, une seule solution s'offre à vous. T'Vénère, avec T'Vénère, à écouter deux fois par mois sur Radio Kawa. Tu vois, j'avais raison, c'est deux fois par mois. Votre dose, bah, bien, tu vois, c'est, mais parce que j'écoute T'Vénère, j'aime bien. souvent, j'écoute en retard et du coup, c'est pas des infos fraîches du tout, mais comme je regarde pas la télé, c'est pas grave. T'Vénère, à écouter deux fois par mois sur Radio Kawa. Votre dose bimensuelle de médias est concentrée pour un meilleur apport en vitamine C. Une pilule de Bolossé par Bolloré, une plaquette d'Europe 1 remaniée, deux cuillères de Le Média et trois portions fraîches de recommandations suffiront à vous remettre d'aplomb. Et face à l'anounite aiguë, nous nous chargeons encore de chercher le meilleur traitement. T'Vénère, c'est le meilleur et le pire du monde des médias. À écouter un lundi sur deux, un lundi toutes les deux semaines sur Radio Kawa, je ne sais toujours pas lire. Attention pour votre santé, n'oubliez pas de manger 5 émissions de Laurent Mariotte par jour.
Oh, voilà. C'est mignon.
Et alors, je dois dire, c'est passionnant à écouter T'Vénère, même quand si tu connais pas du tout la télé, si tu la regardes pas, si tu t'en fiches. C'est intéressant pour savoir ce qui s'y passe et aussi parce qu'ils abordent souvent la question de la radio, d'internet, de tout le milieu audiovisuel, voilà, des médias audiovisuels français. Et ça me fait ma petite dose d'infos là-dessus chaque quinzaine, et c'est très bien.
Tu peux tenir des conversations avec les collègues à la machine à café.
Eh oui, j'essaye de ne pas avoir de conversation avec mes collègues à la machine à café, mais mais quand j'en ai comme ça, du coup,
t'en prendras des chefs.
Non, j'aime bien boire mon café tout seul dans le jardin le matin.
Oui.
Bref.
Oui, d'accord. Mais tu ne fais pas d'acte de sociabilité parce que c'est avant tout un acte de sociabilité. Comme le fait que j'ai remarqué que les femmes, c'était toujours bien vu qu'elles rapportent un gâteau. Les hommes, on s'en fout, on leur demande pas, mais les femmes, on leur demande à chaque fois. Tu fais un gâteau quand?
Est-ce qu'on n'attaquerait pas Italo Calvino et ses Cosmi Comics?
Si, molto bene.
Molto bene. Alors, on va le dire de suite, je crois que c'est un livre où, et toi et moi, on a eu du mal à rentrer dedans tous les deux.
Oui,
Oui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis forcé. Aïe, 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 aïe.
On n'a pas choisi le Calvino le plus facile. Parce que je me suis toujours dit Calvino, qui était un de mes auteurs préférés. Calvino, c'est toujours bien. Marco Valdo, c'est hyper facile de rentrer dedans. Si par une nuit d'hiver, un voyageur, c'est génial. Le Baron Perché, meilleure lecture adolescente et tout. Et alors, du coup, pourquoi pas rentrer dans ces ouvrages de science-fiction? Ça doit être chouette et tout. C'était dur.
Alors, sachant que je n'ai jamais lu, alors à mon grand, enfin, de toute façon, il y a plein de trucs que j'ai pas lu, mais bon, je n'avais jamais lu de Calvino.
Que ça ne t'en dégoûte pas. Ça, c'est vraiment marginal par rapport à plein de trucs qu'il a fait.
D'accord.
C'est un très différent de plein de choses qu'il a fait.
J'avoue que là, franchement, j'ai peur. Je suis pas sûre de vouloir en relire.
Alors, faudra que au moins, à mon avis, tu pourras. On va t'en retarder au maximum le moment où on va parler de Cosmic Omnia.
On peut pas en parler. Alors,
au moins, la trilogie formée par le Vicomte Pourfendu, le Chevalier Inexistant et le Baron Perché, c'est des romans initiatiques avec des préceptes incroyables qui utilisent le fantastique. Tu vois, typiquement, le Baron Perché, c'est l'histoire d'un gamin qui, au 18e siècle, qui décide de monter à un arbre, je crois, parce qu'il veut pas finir sa soupe ou un truc comme ça, qui va passer sa vie. Il va jamais redescendre.
Ah, d'accord.
Tu
vois, et, ok, c'est mignon.
Et c'est une espèce de, ouais, tu sais, de fable un petit peu à la Voltaire,
oui,
quoi.
Comme
un peu
Candy,
fable moralo, philosophe. Ouais. C'est ça. Mais,
oui, du coup, ça
mais
peut
vu
être
par le.
Candide, c'est vraiment cool à lire. Ça vieillit pas, je trouve.
Oui. Il a fait aussi, il a fait aussi Marco Valdo, qui a une série de nouvelles qui parle de l'arrivée de la modernité et de l'urbanisation en Italie et de tout le rapport à la nature. Et il a fait un chef-d'œuvre aussi, voilà, qui s'appelle Si par une nuit d'hiver, un voyageur. Peut-être le truc qu'on pourrait rattacher de près ou de loin au nouveau roman, qui est le plus lisible et qui est le plus fun à lire. Enfin, au nouveau roman, en l'occurrence, c'est plutôt proche de l'Oulipo que du nouveau roman, mais c'est un roman sur la manière dont se construit le texte, et c'est très ludique et c'est très chouette.
Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'Oulipo et du nouveau roman, parce que je suis toujours un peu paumée là-dedans.
L'Oulipo, c'est un mouvement littéraire qui commence un petit peu dans les années 60, qui a été notamment fondé par Raymond Queneau, et l'idée, c'était de se dire, le roman, on a un petit peu fait le tour, ça fait... un peu plus d'une centaine d'années avec les feuilletons et tout ça, que le roman a pris sa forme actuelle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un petit peu changer les choses? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver un petit peu comme nouvelle forme pour créer du roman? Ce qui a donné des choses très intéressantes et des choses où des gens décrivent ce qu'il y a dans leur trousse pendant 300 pages. ou des trucs, voilà. En fait, ça a donné plein de choses à la fois très intéressantes et à la fois clairement illisibles. Mais comme à chaque fois que t'as un nouveau mouvement, t'sais, universitaire, t'as des gens qui vont pousser le truc à fond la caisse.
Oui, puis ils aimaient bien faire des trucs un peu bizarres. C'était dans le même principe que le surréalisme, le dadaïsme et tout, quanti, là, les machins que tu fais. Mais arrêtez de vous masturber la tête, ça suffit.
Donc l'idée, c'est que comment résumer ça très rapidement sans dire n'importe quoi? L'Oulipo, ça va vraiment être des gens qui vont partir dans l'expérimental, dans le farfelu, dans le faire casser les rythmes de la narration, tu vois, tout ce truc de enlever la lettre E d'un livre, tu vois, enfin, ou écrire un truc en vers à l'envers, faire de l'écriture automatique de l'anti-hasard. Ouais. C'est vraiment un peu le laboratoire, et le nouveau roman, ça va vraiment être plutôt une démarche littéraire autour de le rejet de ce qui s'est fait avant. C'est-à-dire rejeter le personnage, c'est-à-dire vraiment essayer de faire du récit sans personnage, faire du récit sans intrigue, tu vois.
C'est chaud, ça.
Ouais, bah souvent ça donnait des trucs un peu illisibles.
Ben oui.
Pour en revenir à Calvino, lui, c'est plutôt un auteur qui va être du côté Oulipo de la tartine. C'est-à-dire que lui, il va beaucoup travailler sur l'expérimental et sur travailler la forme du récit pour trouver des nouvelles façons de raconter des histoires. Et dans Cosmic Comics, on le sent.
Ouais, puis aussi le néo-réalisme, d'après ce que je vois aussi, qui l'a beaucoup inspiré dans les années 40-50. Et du coup,
complètement.
Il a été aussi. Ça y est, j'ai perdu le mot. Tu sais là, quand on est résistant.
Résistant.
Oui. Résistant. Et puis il était. Oui, bah oui. Du coup, il était engagé politiquement. du côté gauche.
Alors, c'est ça, exactement, oui. Alors, c'est sans ambiguïté un auteur de la gauche italienne, Calvino. C'est effectivement quelqu'un qui a une vie très, très mouvementée, puisqu'il naît à Cuba. Son père était agronome et il travaillait là-bas. Puis il est revenu dans l'Italie fasciste, où il a reçu en secret une éducation antifasciste.
Et sa mère, puis il rejoint n'oublie la pas résistance. Sa mère, qui était native de Sardaigne, était biologiste.
Et exactement, oui. Donc, il vient d'une famille de laïcs, lettrés, progressistes, antifascistes, hein, des gens, voilà, des gens badass, hein, de leur époque. Et très rapidement, il va rentrer dans les, après la guerre, il va rentrer effectivement dans les mouvements artistiques et littéraires de son temps. Et à l'époque, le triomphe en Italie, c'est le triomphe du néo-réalisme,
du néo-réalisme.
Puisque l'idée était aussi, dans le néoréalisme italien, de s'extraire de tout ce que le fascisme avait imposé en Italie en termes d'idéologie, justement pompière, kitsch, fantastique, mais tu vois, enfin tous les péplums italiens aussi des années 30-40. L'idée était de revenir un petit peu à la description de la réalité, des conditions sociales et de casser le grand récit national. Donc voilà, il va être influencé par ça, puis après par le fantastique et par la science-fiction et par le mouvement oulipien de briser un petit peu les carcans des possibilités de la littérature. Donc c'est quelqu'un qui va avoir souvent dans ses romans à la fois un style qui va être cosmicomics mis à part, un style qui est très clair et très compréhensible et par le côté réaliste, et d'un autre côté il n'hésite pas à partir dans le fantastique, dans l'imaginaire, dans l'invraisemblable, parce que lui considérait qu'on n'avait pas justement à coller que la réalité n'était pas forcément obligée de coller complètement au récit.
On
pouvait tout
on
à fait faire
bien.
Des personnages anthropomorphes et voilà.
Oui,
donc,
on
voilà,
voit bien dans Cosmic Comics, hein. Il aime bien ça, hein.
Et à mon avis dans Cosmic Comics il y a la donnée les drogues des années 60 qui ont dû intervenir aussi à un moment donné.
Mais ça partait d'un bon sentiment, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était illustrer des concepts scientifiques du cosmos pour le grand public, puisque c'était son leitmotiv au final, rendre les choses claires, y compris pour les non-avertis.
Voilà, puisque Cosmic Comics, c'est une série de nouvelles écrites entre 64 et 68, qui parle d'un personnage, je ne vais pas essayer de prononcer son nom, puisque c'est une série de consoles.
Oui, on va dire, alors attends, c'est QFWFQ.
Ouais, donc Kufuk, hein, on peut dire. Kufuk, qui est un être qui a été là, présent dès le début des temps.
Ouais,
voilà,
même avant.
Il a toujours été là. C'est un personnage qui a toujours été là.
Avec sa famille.
D'ailleurs, avec d'autres. Avec sa famille, ses voisins, les voisins d'en face qui sont des immigrés parce qu'ils sont arrivés là plus tard. Ben voilà, il y a un côté des fois description d'un vieil immeuble italien, sauf que c'est avant le Big Bang, tout est situé à un seul point de l'univers. Donc voilà, le pauvre Kufuk, au début de chaque nouvelle, va commenter en fait un fait scientifique établi comme vrai dans les années 60. Parce qu'attention, quand vous vous attaquez là-dedans, tu te dis ça c'est pas ce que j'ai appris à l'école, parce que
ça a changé depuis.
Voilà, non, on sait un peu mieux comment ça marche, la fondation du cosmos et la disparition des dinosaures maintenant. Donc il va prendre un fait de l'histoire de l'espace ou de l'humanité et il va dire ah oui, je me souviens très bien, en ce temps-là j'étais avec ma mère au bord de la plage et on était des poissons.
Ce temps-là on était des dinosaures pendant 50 millions d'années, blablabla. Bla, bla.
J'étais en train de jouer aux billes avec cet imbécile de Pupuk.
Et on
jetait des billes d'atomes à travers l'espace-temps. Et voilà.
Oui, c'est ça. Tu résumes parfaitement le truc.
En fait, voilà, il prend des situations de la vie quotidienne racontées par une sorte d'être divin qui commente un petit peu la fondation du cosmos. C'est très étrange, on peut pas dire le contraire.
Ouais, après, c'est super bien écrit, il y a un beau style, vraiment, hein, vraiment un très beau style, mais moi, perso, ça m'a ennuyé, quoi. Alors que j'adore les récits cosmogoniques, hein, mais là, j'ai... bof.
Alors... Voilà, il propose une cosmogonie de l'univers. C'est très original parce qu'il s'extrait à la fois des cosmogonies orientalistes, tu vois, enfin les grands récits indiens et tout ça, ou antiques de chez nous. On n'est clairement pas chez Zeus qui monte sur une montagne et tout ça. Et tout le côté judéo-chrétien aussi, il passe complètement à la trappe. Hein, il n'est pas question de Dieu. Il est vraiment question. Limite, je les voyais sur leur Vespa, tu vois, à Naples dans les années 60 en train de créer l'univers. Il y a vraiment ce côté, c'est quelqu'un qui va te raconter de manière très anthropomorphisée ses petits problèmes. problème de lié à la création de l'univers. Genre, ce moment où on s'est poursuivi à d'autres galaxies parce que, genre, ils font du skateboard avec des galaxies à un moment donné. Et puis, on allait tellement vite qu'on se voyait nous-mêmes par derrière parce qu'on avait fait le tour de l'univers. Et c'est comme ça qu'on a découvert que l'univers était sphérique, je sais pas quoi, tu vois.
C'est arrivé.
C'est exactement. Mais je pensais à Mario Kart dans cette nouvelle. Ce moment où ils se poursuivent en faisant vraiment du skateboard sur des galaxies. Et donc, il y a vraiment une volonté de créer une cosmogonie en s'extrayant complètement de tous les modèles qui ont été proposés jusque-là. Et ça je trouve
oui,
ça rigolo.
C'est rien qu'en lui-même, c'est déjà quelque chose de ouf de réussir à faire ça.
Voilà, c'est hyper onirique. Ouais. Mais c'est
le
des
récit
fois,
où la lune elle est tellement basse qu'ils arrivent à choper du lait de lune que tu sais pas trop ce que c'est ni ce qu'ils en font. Donc ça a l'air bien dégueu en fait. Mais
coquin.
Mais qu'ils arrivent à toucher la lune. Enfin voilà, ça, c'est mignon comme tout.
Oui, et puis toucher la lune, ça leur fait pas peur. Et donc, enfin bref, faut que j'aille avec cette blague. Oui, et puis ça a été un peu ma limite aussi, c'est que le côté des fois presque abstrait, presque poétique, il y a des fois où je me suis dit,
on décroche la
lune.
Ouais,
j'ai décroché plein de fois. Décroche, bravo.
Pas que toi qui peux en faire, c'est bon. Hein.
Mais par contre, ce que tu dis, c'est vrai. Je sais pas si t'as eu exactement cette impression. Des fois, c'est dur de rester accroché parce que t'as vraiment l'impression que le mec, il est parti trop loin, que t'arrives pas à... t'arrives pas à le suivre,
c'est
en fait.
Ça. En fait, moi, c'est un des points faibles du truc. C'est que je trouve qu'il y a trop de mots, en fait. Et qu'on a l'impression qu'il tartine pour se faire plaisir, tu vois, mais un peu comme un jazzman dans un solo. Sauf qu'il s'arrête pas. Et c'est assez fatigant au final quand ils font des solos de jazzmen et un peu trop longs, on finit par en avoir marre. Et là, c'est la même chose, c'est fatigant à lire. Mais
oui, c'est
on
fatigant.
Se rend compte que pour réussir à faire ça, il faut une maîtrise de la langue assez dingue. Mais ça reste bon, ça reste oui. Voilà quoi.
Il y a effectivement un côté free jazz des fois. C'est ce moment où t'es venu pour du Miles Davis et à un moment donné que ça commence à faire des bruits de canard, puis t'as un mec qui rentre en faisant grincer des portes, puis là t'as quelqu'un qui se met à ramper dans l'escalier en jouant de la harpe à l'envers, et tu dis non mais moi j'étais juste venu pour écouter du bebop les amis.
Et
c'est pas grave. Mais voilà.
Si tu veux, je peux lire le début de Un signe dans l'espace qui m'a fait décrocher totalement.
Alors ouais, c'est une des plus dures à lire parce que
il m'a tué.
C'est une nouvelle où juste pour... lui, elle est dure à lire et pourtant c'est alors Cosmic Comics, c'est pas long hein, c'est 150 pages. C'est 12 nouvelles de quelques pages à chaque fois, mais il y en a certaines, j'ai eu l'impression qu'elles en faisaient 30 et Un signe dans l'espace, c'est une nouvelle où il essaye de raconter la création du concept de signe.
Ouais. Donc c'est alors au départ, ça commence, toutes les nouvelles commencent comme ça, il y a un petit passage en italique où ça parle d'une vérité scientifique de l'époque. Donc, alors, le Soleil est situé dans la zone externe de la Voie lactée et il faut 200 millions d'années environ pour que s'accomplisse une révolution complète de la galaxie. Exact, c'est ce qu'il faut. Pas une minute de moins, dit Kfekfe. Moi, une fois en passant, je fis un signe en un point de l'espace tout exprès afin de pouvoir le retrouver 200 millions d'années plus tard quand nous serions repassés par là au tour suivant. Un signe comment ? Oh, c'est difficile à dire, parce que si je vous dis un signe, vous pensez aussitôt à quelque chose qui se distinguerait de quelque chose. Et en la circonstance, il n'y avait rien qui pût se distinguer de quoi que ce fût. Vous pensez aussitôt à un signe marqué à l'aide d'un outil quelconque, ou même avec les mains. Et alors l'outil ou bien les mains s'en vont, tandis que le signe au contraire demeure. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas encore d'outils, ni même de mains. Il n'y avait pas non plus de dents, ni de nez. Toutes choses qui vinrent par la suite, mais bien plus tard. Pour ce qui est de la forme à donner à un signe, vous dites que ce n'est pas un problème, parce que, quelque forme qu'il ait, il suffit qu'un signe serve de signe, c'est-à-dire qu'il soit différent d'autres signes ou qu'il leur soit semblable. Là encore, vous parlez un peu vite, car moi, à cette époque, je n'avais pas d'exemple auquel me référer pour dire « je le fais semblable » ou « différent », parce qu'il n'y a rien qu'on pût copier, pas même une ligne, droite ou courbe, au choix, on ne savait pas ce que c'était, ou un point, ou une saillie, ou son contraire. J'avais l'intention de faire un signe, oui, bien sûr, ou si vous voulez, j'avais l'intention de considérer comme un signe n'importe quoi qu'il me viendrait à l'esprit de faire. D'où il résulte que moi, ayant en un point quelconque de l'espace et non en un autre, fait quelque chose, entendant faire un signe, il s'ensuivit que j'y avais fait un signe en vérité.
Voilà. Et ça dure comme ça pendant une dizaine de pages. Parce qu'après, il y a d'autres gens qui font des signes, et après, il y a des gens qui altèrent des signes, et après, quand ils reviennent, ils sont tristes parce que ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui ont mal imité leurs signes et tout ça.
Là, mais,
donc,
c'est
C'est une des plus rudes, dans celle-là.
Franchement,
elle est rude, quoi.
Je me suis reprise à 4 fois pour essayer de la lire, et après, j'ai dit non, c'est bon, je vais encore en lire une autre, et après, j'arrête, parce que j'en peux plus.
À côté de ça, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus anecdotiques, voire même assez rigolotes. Il y en a une, je sais pas si tu l'as lu, c'est celle avec l'oncle aquatique.
Non, je l'ai pas lu.
Alors c'est un où il raconte le passage des poissons aux animaux terrestres, et donc c'est l'histoire de Kufuk, hein, qui se met à ramper sur la plage, qui se met à avoir des poumons, des bras, des jambes, et à devenir un mammifère, quoi, en gros. Et il va revoir son vieil oncle relou qui veut rester dans la mer pour toujours, hein. Et en disant mais c'est bien la mer, il y a des algues et tout, et t'as genre le vieux papy qui a pas envie de bouger et tout, et puis de mon temps on était tous dans la mer et on était pas si malheureux et on jouait avec un seul bâton, tu vois. Et tu vois, ils sont non mais non, c'est bien, il y a des montagnes, il y a des collines, regarde, il y a des fougères qui poussent, maintenant on a inventé plein de concepts comme les lacs et tout, si tu veux revoir de l'eau, pourquoi j'irais dans un lac alors que la mer, et tu vois, celle-là elle est rigolote. Et il y en a qui sont très marrantes à lire, et d'autres où effectivement c'est il part dans des concepts autour, voilà, de la sémiotique,
ouais,
de la cosmogonie.
Ça va, il est vraiment doué là-dedans. Il y a celle avec les dinosaures, est assez rigolote aussi, même si bon, ça tourne vite en rond, mais ça reste mignon.
Exactement. Et voilà, et ça alterne les moments très drôles. Alors il y a eu plein d'éditions, hein, de Cosmic Comics, parce qu'en plus il a composé ses récits au fur et à mesure, et il y a eu une édition complète qui comprend toutes les nouvelles hors Cosmic Comics qui reprennent aussi le personnage de Kufuk, hein, puisqu'il il y a eu des nouvelles éparses où il y a eu ce personnage, mais en tout cas l'édition que j'ai eue était extrêmement bien traduite. C'est vraiment, je pense que c'est pas facile à traduire comme langue. Ouais, c'est ça rend hyper bien la musicalité, ouais, quand même, de la langue de Italo Calvino, qui est quand même très très belle, même si des fois on avait un peu de mal à le suivre. Je pense que dans l'extrait que t'as lu, on s'en est rendu compte. C'est
même à voix haute, je veux dire, j'ai pas eu envie de buter sur un mot trop souvent. Enfin voilà, ça se fait tout bien, alors que je l'ai pas plus préparé que ça au final, la lecture.
Non, mais de ce point de vue-là, c'est vraiment une très belle langue. Après, je vais être clair, c'est pas ce que je recommanderais pour commencer Calvino.
Non, clairement,
quoi,
pas. Je suis tombée dans le panneau, il ne fallait pas commencer par celui-là, mais t'avais tout lu, tous les autres aussi, quoi. C'est pareil, si j'ai lu Terre-Mère, c'est parce que tu l'avais déjà lu, et voilà. Et super, quoi, bravo. Alors moi, la prochaine fois, que les choses soient claires, hein, je vais lire ma lecture à moi, tranquille dans mon coin, que je vais trouver bientôt.
Je t'empêche pas, mais enfin, on dirait que je suis un tyran.
Non, c'est vrai, tu m'empêches pas.
Non, mais voilà, c'est une œuvre qui est hyper riche, Calvino. C'était aussi l'occasion d'en parler, hein. Et vraiment, je recommande, même si des fois c'est cantonné à de la littérature pour enfants et tout, mais à mon sens, ça l'est pas du tout. C'est juste que, pour le coup, c'est moins conceptuel et c'est peut-être un peu plus naïf, mais la lecture, au moins, du Baron Perché, Il Barone Rampante, qui a un livre qui est hyper intéressant parce que c'est aussi un panorama de la vie intellectuelle, en Italie, autour de la Révolution française, puisqu'il parle, ça parle aussi de la guerre de succession d'Autriche, de la Révolution française, des invasions napoléoniennes, et tout ça du point de vue de quelqu'un qui choisit, du coup, de vivre sa vie perchée, donc littéralement au-dessus des choses, donc qui essaye d'avoir une vue aérienne sur tout ça. Donc évidemment que c'est un livre qu'on donne beaucoup à lire au collège. Moi je l'ai lu au collège, hein. Mais ça se lit hyper bien, c'est très intéressant. Il a aussi fait un ouvrage qui s'appelle Les villes invisibles, qui pour le coup se lit aussi très bien, et qui est un ouvrage sur l'urbanisme et la littérature, et qui prend le prétexte de Marco Polo, qui raconte comment s'organisent les villes à Kubilai Khan pendant son voyage en Chine. Et il raconte en fait un petit peu qu'est-ce que pourrait être une ville utopique, comment pourrait être organisée une ville en fonction du regard, une ville en fonction des morts, etc. Enfin, c'est passionnant, et vraiment, voilà, faut pas s'arrêter au fait qu'il a écrit des trucs qui sont vraiment des fois trop conceptuels. Et franchement, aussi Marco Valdo ou Les Saisons à la Ville et Si par une nuit d'hiver un voyageur, c'est deux romans qui sont vraiment très très drôles.
Après,
et
c'est intéressant
très chouette,
aussi de lire des choses qui sont justement, c'est ça qui est intéressant aussi dans notre démarche, c'est qu'on va lire des bouquins des auteurs dont on sait que c'est des classiques, dont on a déjà lu des classiques, les gros bouquins, mais on va aller voir un peu sur ce qu'ils ont fait à côté pour parler d'eux et parler de ce qu'ils ont fait aussi à côté. Et ça, c'est vrai que je suis contente de l'avoir lu, hein.
Moi aussi.
Mais voilà,
je regrette
après,
pas.
C'est pas. Je pense qu'il faudra que j'en lise un autre de lui pour me détendre l'esprit. Oui, c'est clair. Mais en termes de récits ou de lecture cosmogonique, si on aime vraiment, enfin, si on aime ce style-là, moi, je sais que j'avais apprécié, enfin, énormément adoré, en fait, plutôt, Le Dit de Sargasse de Régis Antoine Jolin aux éditions Mnemos.
Je ne connais pas du tout.
Eh ben, écoute, franchement, lis-le, il est génial. C'est un tout petit livre. Je sais plus là en tête, mais à peu près pareil, une 150, je pense, pages, quelque chose comme ça. Et il s'est tourné vers l'inspiration des anciens mythes, hein, comme tu disais là. Oui, au moins là, c'est différent. Bon, bah là, on est dedans. Hein, c'est un mélange des mille et une nuits.
C'est pas un reproche. On peut être dedans. C'est juste que je disais juste que Calvino essayait de d'inventer une nouvelle façon d'inventer l'univers.
Ouais. Et ben là, en fait, c'est vraiment en termes vraiment de mythes. Il n'y a pas une volonté scientifique derrière. C'est vraiment très onirique. Il y a un mélange des mille et une nuits et des mythes hindous. C'est vraiment. Tu pars super loin. C'est très très bien écrit. Il te transporte. Tu y repenses une fois que t'as fini de le lire. Ça fait vraiment voyager et c'est très 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 chouette. Voilà, moi je le conseille. Le dit de Sargasse, de Régis Antoine Jolin, aux éditions de Mémos. N'hésitez pas. Très belle lecture que j'ai faite il y a, je sais plus, 5 ou 6 ans, ou peut-être 6 ou 7 ans. Bon, bref, il y a un petit bout de temps. Et c'était vraiment chouette.
Eh ben, tu sais quoi, ça me fait. C'était pas prévu, mais je vais rebondir aussi, moi, en récit cosmogonique. Vraiment autour de la création de l'univers avec une vision très globale et tout ça. Je vais recommander un dessin animé japonais qui est assez méconnu. Qui s'appelle Kado, The Right Answer. Okay. K-A-D-O, The Right Answer, comme la bonne réponse. Qui est un truc en 3D CG qui est un peu passé inaperçu il y a quelques années, qui est assez intéressante puisque, ça raconte l'histoire d'un jour au Japon, il y a un cube gigantesque qui apparaît au-dessus de Tokyo, genre un cube impénétrable et de la taille de plusieurs immeubles, voilà. Et, de ce cube apparaît une créature anthropomorphe qui en gros se présente quand même plus ou moins comme une divinité et qui va proposer des solutions aux problèmes de l'humanité. Donc il va donner une manière de faire de l'énergie illimitée, puis enfin, du voyage instantané, enfin tu vois ce genre de truc. Hein. Mm-hmm. Et en gros, le gouvernement japonais soupçonne un peu que il y a peut-être anguille sous roche, tu vois, et que ça vient avec un prix et que peut-être que cette créature n'a pas d'aussi bonnes intentions que prévu et va envoyer en gros quelqu'un qui est spécialisé en négociation de situations de crise pour essayer de comprendre et de déterminer les intentions cachées de cette créature. Et en fait, ça part complètement à la fin dans un récit autour justement de la création de l'univers et qu'est-ce qu'il pouvait y avoir avant le Big Bang et pourquoi cette créature elle est arrivée là à ce moment-là précis. Et pour le coup, en termes de psychédélique, ça va assez loin. Ah. Et en termes de rapport de l'humanité à ce qui pourrait être plus grand qu'elle, du divin, du temps, de l'espace, c'est assez intéressant aussi. C'est disponible chez Crunchyroll chez nous et c'est vraiment à voir.
D'accord, c'est noté.
Voilà. Bon, en attendant, on arrive à la fin de la saison.
Oui.
Tu vois, ça, bon, on a dit qu'on ferait des choses pendant l'été et tout. Hein, donc,
vous les aurez pas, mais vous les aurez plus tard.
ouais, si on arrive à enregistrer un petit hors-série, peut-être qu'on se fera ça. Je ne sais pas, on va en discuter avec Kawa, on va voir ce qu'on va faire cet été. Sachant qu'au moins une petite pause en août, moi, ne me fera pas de mal, car je déménage et toutes ces choses.
Oui, oui, donc il faut savoir aussi un peu puis faire des pauses, s'arrêter, voilà.
Se ménager, voilà, se ménager pour se ménager du temps de lecture.
Te ménages.
Pas souvent, mais là, par exemple, ce matin, j'ai fait la sieste.
Oh, ça s'appelle la grasse mat.
J'espère que ça ne s'entendait pas trop. Non, tu veux la grasse mat. Moi, je me suis levé à 8h ce matin, c'est déjà de l'hyper grasse mat. Pour moi, je suis méga matinal, mais j'ai refait une petite sieste après pour être frais pour l'émission. Et donc, on s'était dit la dernière fois, en faisant...
Tu vois,
voilà, le prochain épisode dans 10 ans.
Non.
aimerait bien, voilà, tu vois, s'attaquer à la rentrée. Et tu étais d'accord. Hein, on a fait le top là, à un gros monument quand même de la littérature mondiale pour la rentrée.
Oui,
la Bible. Non, pas du tout.
Non, on l'a déjà lu. Non.
un entier tous les dimanches.
Tu fais des études d'histoire, tu le lis plusieurs fois la Bible.
Ah oui, toi t'es médiéviste en plus.
Ah oui. Et j'ai fait histoire de l'art, alors tu penses.
Oh là là. Non, on aimerait bien s'attaquer à la rentrée au roman de Murasaki Shikibu, Le Dit du Genji. Qui est ou conte du Genji ou roman du Genji selon les traductions, mais je pense qu'on essaie de trouver la traduction la plus récente, qui est le premier grand classique de la littérature japonaise.
Voilà. C'est considéré comme le texte fondateur, quoi. Donc.
Voilà, et qui est considéré aussi comme le premier roman psychologique de l'histoire de l'humanité, puisque c'est un, ouais. Ça décrit un petit peu les relations de cour au XIe siècle au Japon. Paraît-il que c'est difficile.
Alors, ne raconte pas trop, ne raconte pas trop.
C'est très long.
Il fait 1200 pages.
Ce qu'on va faire aussi, c'est que si jamais c'est affreux et qu'on n'y arrive pas du tout, on fera autre chose. Voilà.
Ah, tu crois? Non. Ah, tu crois? Je sais pas. Tu sais. C'est...
Je préfère prendre cet engagement-là que de se dire qu'on va souffrir tout notre été sur un truc horrible.
Mais non, mais on arrête. De lire, moi j'ai dit quand je souffre trop, j'arrête.
Oui, mais tu vois, si on laisse tomber au bout de 100 pages, on va laisser tomber. Mais a priori, mais j'aimerais bien qu'on le fasse. J'aimerais bien faire un numéro bien fat de rentrée comme ça sur ce truc-là.
Le gros morceau, quoi. 1200 pages, un bon truc médiéval d'Asie et tout là.
Voilà. Qui en plus, avec des tas des personnages qui changent de nom selon le chapitre et tout. Ça va être génial. Je trouve que ça va trouver une édition à noter.
On va s'éclater. Bon été.
Voilà. Bon été. On a quand même tenu une saison, c'est chouette, ouais. Et on a envie d'en refaire une, c'est trop bien.
Ouais. Donc toujours, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour voir si ça vous a plu ou pas, ce qu'on pourrait améliorer ou voilà, ce genre de choses. Et puis même,
si vous avez lu,
juste simplement vouloir discuter avec nous, nous sommes là, nous sommes ici et nous sommes disponibles.
Voilà, moi je traîne un petit peu sur le Discord de Radio Kawa, je vais régulièrement sur mon propre Discord, hein, le Discord du Calvin Ball Consortium aussi, où je fais mes autres podcasts. Moi j'ai Twitter, et puis vous avez les commentaires de l'émission sur lesquels vous pouvez laisser des petits messages gentils.
Voilà. Moi si vous ainsi... taguez Zali, moi après il me tague, c'est bon.
Oui, voilà, je tague l'ourson dans sa grotte, hein, il y a des gens qui nous parlent.
Il y a des gens qui nous parlent, ah d'accord.
Arrête de jouer à Assassin's Creed là, viens répondre aux gens.
Ah, laisse tomber Assassin's Creed WoW et Animal Crossing, là il y a des choses.
Ah, j'espère que tu continueras l'émission quand le nouveau Animal Crossing va sortir, parce que c'est pour la fin de l'année.
Mais c'est
là,
pour
donc.
Ça qu'il faut qu'on fasse des, tu vois,
des émissions
des
d'avance.
D'avance.
Je
viens d'être prise sur la vie femme.
Je vais aller, les aventures du villageois, page 360. Ma fanfiction sur Marie de Assad.
Oh, mais t'as chacun ses petits péchés mignons, hein.
Ben, tout à fait, j'ai aucune leçon à donner. Moi aussi, je joue Assassin's Creed en ce moment.
Bah oui, et puis, franchement, il est très bien, hein. Le dernier, il y a quelques bugs, mais dans l'ensemble, franchement, tu parles avec Hérodote, excuse-moi, mais rien que ça, c'est bon, quoi.
Oui. Après, si tu parles avec Hérodote et qu'il ne te dit que des âneries, on va pas faire un débat sur Assassin's Creed maintenant, mais je l'aime bien aussi.
Il est bien. Et puis Socrate, tu fais les quêtes avec Socrate.
Tu fais les quêtes avec Socrate, il t'en faut pas beaucoup.
Mais il fait une initiation à la philosophie, quoi. C'est trop
le
cool.
Le jeu, il est tout bugué, il a une boucle de gameplay
mais
complètement grotesque, machin, c'est Diablo. C'est un mauvais Diablo, mais c'est avec des jolies idées.
Mais n'importe quoi, mais quelle mauvaise foi.
Mais c'est trop facile de t'énerver.
Mais oui, mais voilà, bah bravo, bah super, hein.
C'est comme agiter le chiffon rouge devant un taureau qui a pris.
Ouais, tu critiques le féminisme et tu critiques les jeux auxquels je joue.
Moi, quand est-ce que j'ai critiqué le féminisme?
Non, mais pour que, en chiffon rouge, je donne mes faiblesses aux auditeurs et auditrices pour. Voilà.
Attention, parce que j'allais dire not all men, hein, bientôt. J'allais dire en tout cas, moi je veux un cookie et une médaille.
Oh putain! Non, bon, nous allons donc arrêter cette émission.
Ouais,
maintenant.
Ça fait longtemps que j'ai mis l'émission, la musique de fin. Ça fait, tiens, je l'ai mise genre il y a 10 minutes.
Oh, mais on n'a pas dit au revoir à nos auditeurs.
Ah, mais au revoir les auditeurs, les auditrices.
On vous aime, bon été. Profitez bien de la plage, de la montagne ou de votre chez vous. Parce que, après tout, quand on se fait chier à faire son beau chez soi, bah, c'est pour y rester aussi. Voilà.
Exactement, voilà, lisez, essayez de lire Termer,
non.
Lisez Sorcière de Mona Chollet, lisez du Italo Calvino, lisez Le Nom de la Rose, lisez
Beloved,
tout ça, voilà.
Bonjour, Chris, tout ça, tout ce qu'on a pu dire avant, ben voilà, il y a des choses vraiment très bien qu'on a vues, hein, de rien, c'est chouette. Merci de nous avoir laissé cette opportunité.
Voilà, et si vous voulez nous récompenser, faites des petits commentaires et allez mettre 5 étoiles dans Apple Podcast. Et j'arrive plus à suivre sur les trucs de podcast, c'est le drama, mais surtout n'allez pas sur des plateformes qui volent le contenu de vos créateurs. Merci, si possible. On fait ça gratuitement, ça veut pas dire que n'importe quel escroc de la start-up. Oui, merci beaucoup. Il est lindo et sensuel. Tonight.
abraça forte. Me faz vibrar. Me leva aos ventos. Me leva ao mar. Me leva aos braços. E sempre volta pra me buscar. Deixa meu rosto, me faz sonhar. Ele é sensual.
L'appel de Cthulhu a été renouvelé pour une saison 2.